nationale et le président du Sénat, Gérard Larcher. Il a également déjeuné avec François Bayrou, dirigeant du Modem. Son nom circule pour prendre la succession de Michel Barnier. La fonction publique se mobilise en pleine chute du gouvernement. Une journée de grève à l'appel de plusieurs syndicats. L'éducation nationale est le secteur le plus touché, avec près d'un enseignant sur trois grévistes, selon le ministère de l'Éducation nationale. En Seine-Saint-Denis, par exemple, plus de 300 écoles sont fermées. Plusieurs manifestations s'organisent un peu partout en France. Une autre mobilisation ce matin, celle d'agriculteurs français et belges. Ils appellent à s'opposer au Mercosur. Conséquence, l'autoroute A2 entre Lille et Bruxelles est fermée. De son côté, Emmanuel Macron a redit à Ursula von der Leyen que cet accord est inacceptable en l'état. Feu vert de l'Organisation mondiale de la santé pour un premier test de diagnostic de la tuberculose. Cette maladie attaque le plus souvent les poumons. L'année dernière, plus d'un million de personnes sont mortes des suites de cette maladie. Selon l'OMS, un diagnostic précoce permettrait de mieux soigner la tuberculose. Les deux orques du Maranhão bloqués à Antibes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé que les deux orques ne peuvent pas être transférés avant la fin d'une expertise sur leurs conditions de vie. L'avenir de Wiki et Kedjo est donc incertain car le parc ferme ses portes en janvier 2025. Un point sur la bourse, le CAC 40 est en hausse, plus 0,11% et s'établit à 7311 points. Tout de suite, c'est Franck Ferrand sur Radio Classique.
Bonjour à tous. Nous partons pour l'Espagne. Nous allons revivre les horreurs et en même temps toute la complexité de l'Inquisition espagnole.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à Séville, au château Saint-Georges, le 6 février 1481. Imaginez une agitation incroyable, une foule considérable. Les personnalités de la ville, les ecclésiastiques, mais aussi pas mal de badauds sont là qui se massent aux abords de la forteresse. La forteresse est sur la rive droite du Guadalquivir. On a construit ce château Saint-Georges au Xe siècle. Il a été utilisé comme métropole par la dynastie Almohade, qui règne sur la moitié sud de la péninsule ibérique jusque largement au XIIe siècle. Et puis ensuite, on a conquis la forteresse en question. Ce sont les catholiques qui s'y sont installés pour poursuivre à partir de là la reconquête de tous les territoires musulmans. Depuis peu, le château Saint-Georges est le siège de l'Inquisition. L'Inquisition, juridiction ecclésiastique, qui a été instaurée 3 ans plus tôt en Espagne, mais qui s'inscrit en vérité dans une longue tradition, dans toute une lignée médiévale. C'est au moment de l'hérésie cathare, c'est au moment de la croisade contre les albigeois que le pape de l'époque, qui s'appelait Grégoire IX, avait organisé l'Inquisition en tribunaux permanents chargés de traquer, de juger les hérétiques. C'est donc bien dans cette région du sud de la France qu'est née au départ l'Inquisition, en 1231 très précisément. Elle est passée ensuite peu à peu dans différents pays, et c'est vrai qu'en Espagne elle va prendre une dimension tout à fait particulière. 3 dominicains sont à la tête de cette juridiction en Espagne. Sur la base de dénonciations, les dominicains nommés à la tête de l'Inquisition vont traquer en particulier ces juifs convertis au catholicisme mais qui continuent à pratiquer leur religion en secret, qu'on appelle les maranes. Outre leur trahison, généralement ils sont accusés d'être à l'origine des soulèvements contre un certain nombre de places fortes catholiques. En quelques semaines, des dizaines de maranes vont être jugées, donc au début de l'année 1481, et pour 6 d'entre eux, la sentence capitale a été prononcée. Ça va être la mort, ça va être le bûcher, ils périront par le feu. Ce sont eux que la foule, cette foule de plus en plus nombreuse aux alentours du château, essaie d'apercevoir, ces 6 pauvres hommes tout maigres, tout sales. Ils avancent pieds nus, le visage tuméfié, ils portent une espèce de chasuble humiliante qu'on appelle le San Benito, avec un chapeau pointu. Ils comptaient, devrais-je dire, parmi les hommes les plus riches, les plus influents de Séville il y avait encore là quelques semaines, sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont plus l'air que de vagabonds. À l'écart, les inquisiteurs, avec tous les juges, ont pris place sur une estrade. Les six hommes sont conduits au bûcher, on allume le feu sur les amas de bois et bientôt, les flammes montent, les hurlements sont insoutenables, les six maranes sont brûlés vifs, là, comme ça, en quelques minutes. L'Inquisition espagnole vient de faire ses premières victimes ce jour de février 1481. Mais ce n'est que le début, parce qu'elle va maintenant faire régner la terreur en Espagne pendant au moins trois siècles. C'est à la demande des souverains Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui s'étaient mariés en 1469, que, par une bulle pontificale, Sixte IV avait instauré l'Inquisition en 1478 en Espagne. Il l'avait placée directement sous le contrôle des rois catholiques. Le pape a proclamé, je cite, « Nous apprenons que dans différentes cités de vos royaumes d'Espagne, nombre de ceux qui, de leur propre gré, avaient été régénérés en Jésus-Christ par les eaux sacrées du baptême, sont retournés secrètement à l'observation des lois et coutumes religieuses de la superstition juive, encourant les pénalités prononcées contre les fauteurs de l'hérésie par les constitutions du pape Boniface VIII. En raison des crimes de ces hommes et de la tolérance du Saint-Siège à leur égard, la guerre civile, l'homicide, les maux innombrables affligent vos royaumes. Nous désirons donc faire droit à votre pétition et appliquer les remèdes propres à soulager les maux que vous nous signalez. » Et alors qu'on est en pleine Reconquista, hein, bien entendu, l'objectif est de maintenir et d'étendre le catholicisme sur tous les territoires qui sont repris, les royaumes de Castille et d'Aragon, bien sûr, qui comptent beaucoup de nouveaux chrétiens, c'est-à-dire des juifs et des musulmans convertis de force au catholicisme, d'une façon plus générale, l'ensemble des provinces de la péninsule. On peut dire que l'Inquisition très vite va passer sous le contrôle des gouvernements et devenir pour les souverains un instrument politique.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ce qu'on oublie, c'est que l'Église de Rome, au départ, n'est pas d'accord avec les excès de l'Inquisition espagnole. Et lorsque le pape Sixte IV apprend l'existence du bûcher de Séville en 1481, il commence par le condamner. Il évoque immédiatement un certain nombre de grands principes. Alors, les dominicains sont révoqués. On place à la tête de l'Inquisition cinq nouveaux inquisiteurs qui ont été nommés par Ferdinand d'Aragon, et parmi eux, un certain Thomas de Torquemada. Voilà le nom que vous attendiez, bien entendu, Torquemada, dominicain austère de 63 ans, qui mène une vie d'ascète et qui se trouvait être jusqu'alors prieur du couvent de Ségovie. Dans l'Inquisition ou la dictature de la foi, voilà ce que nous dit Jacques Pinglet. Le choix du pape est très habile. La nomination de Torquemada, confesseur du secrétaire de la reine Isabelle de Castille, apparaît comme le geste d'un bon vouloir qui dissimule ce qu'il a d'autoritaire. Le nouvel inquisiteur bénéficie du souvenir de science et de valeur, de fidélité laissé à Rome par son oncle, qui fut une des plus importantes personnalités de l'Église, le cardinal Juan de Torquemada. Il est donc nommé inquisiteur général d'Aragon, Castille et Catalogne, ce Thomas de Torquemada. Il a les pleins pouvoirs. L'Inquisition, à ce moment-là, devient vraiment très puissante. Les tribunaux, les procès, les bûchers vont se multiplier.
It's in our wisdom, from time to form.
Le cœur au Fortunat de Carmina Burana, bien entendu, de Karl Orff. Le cœur Arnold Schönberg et l'orchestre philharmonique de Vienne étaient sous la direction d'André Prévin.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, vous l'avez compris, les Juifs sont les premières victimes de l'Inquisition. Depuis le 8e siècle et la conquête arabe, ce sont eux qui avaient pourtant développé partout en Espagne les sciences, le commerce, enrichi la vie culturelle et intellectuelle, rempli toutes les fonctions importantes et acquis d'importantes richesses. Mais avec la reconquête catholique, évidemment, ils sont très menacés, y compris ceux qui se sont convertis. Surtout d'ailleurs ceux qui, tout en s'étant convertis, restent fidèles à leur ancien culte. Dans la nuit du 15 septembre 1485, l'inquisiteur d'Aragon, il s'appelle Pedro de Arbues, est égorgé dans le chœur de la cathédrale de Saragosse. Ah, vous imaginez, alors, il n'y a aucune preuve que ce soit les Juifs qui soient à l'origine du crime, mais peu importe, ce sont eux qui, bien sûr, sont accusés, et en représailles, Torquemada va renforcer la répression à leur encontre. La dizaine de tribunaux que compte désormais l'Espagne va instruire à tour de bras, les dénonciations se multiplient. En 1490, par exemple, un Espagnol poursuivi pour sorcellerie accuse des maranes de l'avoir convié à participer à des rites conjuratoires. Bref, Torquemada exhorte les juges de Ségovie à incarcérer, à interroger un cordonnier ainsi que ses frères et tous leurs complices. L'enquête révèle qu'ils se sont convertis, tous ces gens-là, mais qu'ils n'ont pas renoncé pour autant au judaïsme. Et allez, on va les brûler vifs. Et les rois catholiques soutiennent Torquemada. On est à une date très importante, hein. C'est 1492, vous savez, c'est d'ailleurs la date du premier voyage de Christophe Colomb, mais surtout, bien sûr, sur place, les rois catholiques décrètent que tous les juifs d'Espagne vont être expulsés. Vous savez que c'est un édit qui ne sera abrogé que beaucoup plus tard, hein, au temps de Franco, en 1967. Malgré ces crises de goutte qui l'affaiblissent beaucoup, Torquemada est impitoyable. Et lorsqu'il meurt en 1498, après 15 années à la tête de cette inquisition espagnole, plus de 2000 maranes auront eu le temps de monter au bûcher. Et puis alors à chaque fois, il y a tout, les biens sont confisqués, etc. Alors comment se déroulent justement ces procès de l'inquisition ? Le prévenu est interrogé de façon très minutieuse. Après tout, c'est l'inquisition, comme son nom l'indique. S'il nie les faits, il est soumis à des épreuves. Par exemple, on l'oblige à faire des gestes qui sont défendus dans sa religion d'origine, manger de une certaine viande, tuer un animal, etc. Et puis, pour obtenir des aveux, on n'hésite pas à utiliser la torture, bien entendu. Alors, sur le chevalet, le garrot, le bourreau peut étirer, vous savez, jusqu'à la limite de l'écartèlement. On peut subir également l'estrapade, qui consiste à attacher les bras dans le dos et à vous suspendre à un mât et à vous laisser tomber, pas tout à fait jusqu'à terre, juste pour disloquer les articulations, bref. Et puis, le supplice des charbons ardents et la torture de l'eau, et que sais-je encore. Donc, ça, c'est toute la procédure, tous les interrogatoires. Et puis, il y a ces autodafés, ces cérémonies de pénitence publiques qui sont organisées en grande pompe. Alors à chaque fois on lit l'acte d'autodafé, la convocation si vous voulez, dans toutes les églises de la ville. L'autodafé lui-même a lieu sur la Grand Place, devant une foule immense, en présence de toutes les sommités de la ville bien entendu. Et après une messe solennelle, un serment d'obéissance à l'Inquisition et un sermon plus général, les sentences sont lues. Alors ça peut être des peines de prison, de flagellation publique. Souvent on envoie les gens aux galères également. Et puis de temps en temps, le tribunal ecclésiastique remet le condamné au bras séculier, c'est-à-dire que à ce moment-là, c'est la mort. Et après s'être confessé, avoir fait pénitence, eh bien, les condamnés au bûcher sont donc emmenés dans le San Benito, là, hein, avec cette espèce de chasuble. Sur la chasuble, il y a souvent une croix de Saint-André ou des symboles des crimes qui leur sont reprochés. Ils tiennent un cierge, et ils doivent porter ce chapeau pointu qu'on appelle le corossa. On a essayé d'enlever à l'Inquisition la responsabilité de la condamnation à mort, nous dit Jean Guiraud, mort par le bûcher, bien entendu, en faisant remarquer que l'Église, ne se reconnaissant pas le droit de prononcer des sentences capitales, c'était le juge séculier qui, en réalité, condamnait à la peine de mort ceux que l'Inquisition livrait à son bras parce qu'elle désespérait de leur conversion. Alors, vous avez bien compris que ça, ce n'est qu'un artifice juridique, bien entendu. Même si les successeurs de Torquemada sont un petit peu plus modérés, ceux qui vont devenir leur nouvelle cible, ce sont les humanistes, bien entendu, hein, du début du XVIe siècle. Le cardinal Cisneros, qui est l'inquisiteur général entre 1507 et 1517, et qui est le régent du royaume de Castille, va même aller jusqu'à inviter le grand humaniste Erasme, vous savez, pour essayer de montrer son ouverture aux idées nouvelles. Mais enfin, il n'empêche, la cruauté est toujours de rigueur. L'historien Bartolomé Benassar estime que jusqu'en 1525, 40% des condamnés de l'Inquisition finissent au bûcher, les judaïsants étant toujours ceux que l'on a tendance à juger le plus. Au cours du XVIe siècle, il y a aussi pas mal de morisques qui sont des musulmans d'Espagne convertis au catholicisme, mais qui n'ont pas pour autant abjuré leur foi et qui vont comparaître devant ces tribunaux de l'Inquisition. L'archevêque de Séville, Fernando de Valdés Salas, va décider de délivrer à partir de 1547 des certificats de propreté du sang aux personnes qui n'ont pas d'ancêtres juifs ou musulmans. Vous imaginez un peu le désordre induit. Ces certificats vont être indispensables à partir de maintenant pour entrer dans l'armée, pour exercer des fonctions religieuses ou intellectuelles. Dans les années 1550-60, on va voir un certain nombre de révoltes musulmanes en Andalousie, avec là encore des procès qui viennent se développer. Pas beaucoup de condamnations à mort pour autant. Comme au temps de Torquemada, le pouvoir espagnol soutient quoi qu'il arrive l'Inquisition. En 1609, le roi Philippe III ordonne l'expulsion des musulmans d'Espagne et à cette époque, les morisques représentent quand même environ 80% des personnes qui ont été interrogées par l'Inquisition. Quand on dit interroger, j'ai pas besoin là encore de vous faire un dessin. Les protestants sont également menacés par l'Inquisition, en particulier les luthériens. En 1559, 40 d'entre eux vont être brûlés vifs à Valladolid. C'est la première fois qu'est dressée une liste d'ouvrages mis à l'index pour leur contenu hérétique. L'Inquisition s'étend aussi aux mystiques, aux sorciers, aux blasphémateurs, et puis à tous ceux qui pratiquent des pratiques contraires aux bonnes mœurs. La fornication, la bigamie, la sodomie, tout ça est bien sûr totalement condamné. Depuis la promulgation du code criminel par Charles Quint en 1532, les délinquants et criminels espagnols aussi vont être déférés devant l'Inquisition. Vous voyez que l'Inquisition est en train de prendre une toute autre dimension. Et elle est active non seulement dans la péninsule hispanique, mais également dans les Pays-Bas espagnols, en Sicile et en Sardaigne, et puis aussi dans les colonies du Mexique, du Pérou, de Colombie, etc. L'Inquisition, si je puis dire, de plus en plus est sur tous les territoires espagnols.
Be with Constance, be with Bartos, be with Rudis, be with Bartos, 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 be with Bartos,
C'est toujours le chœur Arnold Schönberg et l'orchestre philharmonique de Vienne sous la direction d'André Prévin qui interprétaient ce chœur In Taberna du Carmina Burana de Karl Orff.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors quand même, au XVIIe siècle, les choses vont se calmer un petit peu. On estime que 1% seulement des personnes jugées par l'Inquisition sont condamnées à mort. L'Inquisition espagnole, je précise bien toujours. Jean-Pierre de Dieu nous dit « Au XVIIIe siècle, l'Inquisition s'endormit, les procès se firent rares, le tribunal tenta d'endiguer les idées nouvelles qui se répandaient dans les classes dirigeantes, il se heurta à plusieurs reprises au pouvoir royal et il laissa une part de sa puissance. » Mais ce qu'il perdait en efficacité matérielle, il le gagnait en popularité. Il devint pour beaucoup d'Espagnols, dans l'élite comme dans le peuple, le symbole de ce qui faisait à leurs yeux l'identité du pays, une fidélité aveugle à la foi catholique. C'est ça, l'Espagne royale de toute cette période classique. L'Inquisition se met à pourchasser, j'allais dire, de nouvelles cibles. Les francs-maçons, ceux qui écrivent des ouvrages un peu trop ouverts aux lumières. Montesquieu écrit, par exemple, avec pas mal d'humour, « Les Espagnols qu'on ne brûle pas paraissent si attachés à l'Inquisition qu'il y aurait de la mauvaise humeur à la leur ôter. » En 1777, l'intendant d'Andalousie, il s'appelle Pablo de Olavide, est dénoncé par 72 témoins. On dit qu'il correspond... Aïe, aïe, aïe. Il correspond avec Voltaire et Rousseau. Vous imaginez, il est déclaré hérétique, infâme. Alors évidemment, il proteste, mais il n'en est pas moins condamné à aller passer 8 années dans un monastère astreint à des exercices quotidiens de piété, ce qui, lorsque on le connaît, pour ceux qui le connaissaient, montrait que c'était quand même une terrible sentence.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
À partir de 1785, l'Inquisition va quitter le château de Saint-Georges, devenu un salle libre, et s'installer toujours à Séville dans un collège de jésuites, comme en atteste l'abolition de la distinction entre les vieux chrétiens et les convertis. Elle devient néanmoins un petit peu plus souple. Quand même, elle fait très attention au moment de la pénétration des idées révolutionnaires qui arrivent de France. Et puis, après l'invasion de l'Espagne par Napoléon Ier en 1808, l'Inquisition, évidemment, est abolie. Elle sera quand même rétablie par Ferdinand VII en 1814 et elle restera active au XIXe siècle, en témoigne cette huile sur bois de Goya réalisée dans les années 1810 et où on voit un procès dans une église avec des accusés qui continuent à porter le sang bénito comme au XVe siècle. Et il y a là devant un public nombreux, etc. L'Inquisition d'ailleurs a souvent contrarié Goya. Un procès a même été intenté contre le peintre pour obscénité, mais Goya a réussi à obtenir l'absolution par l'intervention d'un de ses amis cardinaux. L'Inquisition est définitivement abolie en 1834 en Espagne et sa dernière victime aura été un instituteur de Valence qui est pendu en 1826. Alors, aujourd'hui encore, on s'interroge sur le nombre exact des victimes de l'Inquisition. Au début du XIXe siècle, Juan Antonio Llorente, qui était l'ancien secrétaire général de l'Inquisition, avait écrit pas mal d'ouvrages et il avançait le chiffre de 130 000 personnes exécutées par la juridiction entre 1478 et 1820. Le chiffre, en réalité, d'après ce que nous disent les historiens d'aujourd'hui, le chiffre serait beaucoup moins important que cela.
Vous écoutez Radio Classique.
Thank you.
On peut penser que le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, ce n'est pas le meilleur moment pour s'offrir une voiture. Ou on peut se rendre chez Dacia et profiter de 2 mois de loyer offerts sur toute la gamme. Pour toute commande du 4 au 9 décembre.
Valable pour toute commande d'une Dacia neuve en location longue durée. 3e et 4e loyer offerts. En fin de contrat, paiement des frais de remise en état plus kilomètres supplémentaires. Offre non cumulable, réservée aux particuliers dans le réseau Dacia participants du 4 au 9 décembre. Si Accordiac, voir Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Radio Classique présente Nos Reines de France, le nouveau livre de Franck Ferrand.
D'Aliénor d'Aquitaine à Marie-Antoinette, ce sont 15 reines capétiennes qui nous reçoivent et qui se livrent.
Nos Reines de France, par Franck Ferrand, aux éditions Perrin, en vente en librairie et sur radioclassique.fr.
À l'occasion des 150 ans de la naissance de Maurice Ravel, la Philharmonie de Paris présente l'exposition Ravel Boléro. De sa création aux réinterprétations multiples, l'exposition Ravel Boléro rend hommage à la modernité hypnotique de l'œuvre la plus jouée au monde, à travers des manuscrits, photos, vidéos, esquisses de décors et costumes et objets inédits. Ravel Boléro, un portrait kaléidoscope de l'œuvre et de son compositeur, jusqu'au 15 juin à la Philharmonie de Paris. Détails sur philharmoniedeparis.fr.
Vitalie Tettinger, présidente du Champagne Tettinger.
Une bulle de champagne renferme un rêve d'accomplissement. Cette recherche est au cœur même de la passion qui nous habite et nous fait créer, chez Tettinger, de merveilleux champagne.
L'instant Tettinger. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
14h30, 17h, Tempo, avec Pauline Lambert, sur Radio Classique.
Et je suis toujours ravie de vous retrouver en direct depuis les studios de Radio Classique grâce aux bons soins de Jérémy Bigori et de Mathis Alexandre qui officie en régie. Ça y est, nous avons décoré le sapin qui trône à l'entrée de Radio Classique. Les papillotes sont de sortie, les clémentines aussi. Ça sent de plus en plus Noël et nous allons ouvrir ensemble une nouvelle case de notre calendrier musical. 15h30, c'est toujours Mozart qui est à l'honneur dans votre tempo des auditeurs et des auditrices. Quelle est l'œuvre de Mozart que vous aimez par-dessus tout? Celle que vous pouvez écouter et réécouter sans jamais vous lasser? À vos messages donc via notre site, les réseaux sociaux ou l'application de Radio Classique. 16h30, à la veille de la journée de l'indépendance de la Finlande, nous allons nous intéresser à tous ces orchestres finlandais qui sont très nombreux et qui font de ce petit pays un véritable miracle musical. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Tempo, c'est parti avec Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
ouvrons cette émission avec ce prélude, les premières notes de la deuxième suite anglaise de Jean-Sébastien Bach, que Chouk Siaoumei a enregistré dans un endroit absolument superbe, un lieu que j'adore, perdu dans les montagnes à 1600-1700 mètres d'altitude, à Névache, dans les Hautes-Alpes, en France. Là, elle était dans la chapelle Saint-Antoine, très exactement, qui se trouve à Ville-Haute, donc dans le village principal de Névache, juste à côté de l'église paroissiale. Et c'est là-bas qu'elle a enregistré en juin 2022 les six suites anglaises de Jean-Sébastien Bach. La pianiste Chouk Siaoumei, qui est très attachée à cette magnifique vallée de la Clarée, où la neige d'ailleurs est tombée sur les hauteurs, c'est tout simplement superbe. Elle y va très régulièrement, elle s'y produit aussi en concert, et puis elle a fondé il y a 10 ans maintenant un très beau festival de musique, le Festival de la Clarée, tous les étés au mois d'août. Mais tout de suite sur Radio Classique, nous retrouvons l'artisan de la redécouverte de Bach au 19e siècle, Félix Mendelssohn.
Thank you.
C'était donc Félix Mendelssohn et ce tempo Allegro vivace, deuxième mouvement de sa cinquième symphonie dite de la Réforme, par l'Orchestre de Chambre d'Europe et Yannick Nézet-Séguin, le chef canadien que je vous propose de retrouver. Chef hyperactif, il dirige un peu partout dans le monde, il est encore et toujours pianiste. Il était à Vienne au concert d'été du Philharmonique de Vienne, au château de Schönbrunn dans le parc. Grand concert avec notamment la mezzo Elina Garancha qui chantait cet air « Ai-je besoin de vous le présenter ?»
Oh.
pouvez-vous aussi applaudir comme si vous étiez à Vienne, dans le parc du château de Schönbrunn. Elina Garancha chantait cette air de Carmen, cette habanera, l'amour est un oiseau rebelle, avec Yannick Nézet-Séguin et avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Et c'est justement une autre habanera que je vous propose d'écouter. Autre danse, toujours aussi chaloupée et sensuelle, celle-ci est signée Pablo de Sarasate. Quelle virtuosité, quelle vélocité aussi. C'était en 1978, Itzhak Perlman au violon, Samuel Sanders au piano, dans cette habanera, cette danse espagnole signée Pablo de Sarasate. Et comme tous les jours, pour patienter jusqu'à Noël, je vous propose d'ouvrir ensemble une nouvelle case de notre calendrier musical. Hier, nous découvrions Bach et son oratorio de Noël. Eh bien, quelle est la surprise réservée pour nous aujourd'hui? Elle est comme les enfants, un peu d'excitation pour découvrir ce morceau.
Le calendrier de l'Avent avec Pauline Lambert. C'est Noël sur Radio Classique.
Thank you.
Et c'est ce mois de décembre qui se cachait sous cette case du calendrier de l'Avent, ce jeudi 5 décembre. Noël, bien sûr, les saisons de Tchaïkovski, cycle qui revient beaucoup à la mode ces derniers temps, qui a beaucoup été enregistré, qui est beaucoup joué aussi, comme ici dans cette version de Nikolaï Louganski. Je vous rappelle votre tempo des auditeurs et des auditrices à 15h30, comme tous les jours. Quelle est la musique de Mozart que vous préférez? Alors oui, je sais, il y a énormément d'œuvres à son catalogue, mais il y en a forcément une ou deux ou trois que vous aimez écouter et réécouter sans jamais vous lasser. Alors avec Mathis, nous changeons en direct la programmation, vous nous écrivez et nous changeons en fonction de vos messages. Alors n'hésitez plus, je vous retrouve juste après le flash de 15h, voilà ce qui vous laisse, pourquoi pas, le temps de nous écrire.
Aujourd'hui, de nombreuses communautés religieuses, catholiques, protestantes ou orthodoxes, faute de moyens suffisants, ne peuvent entretenir le patrimoine artistique ou culturel des monastères qui les abritent. En faisant un don à la Fondation des monastères, vous pouvez contribuer, même modestement, à soutenir cette cause. Vous souhaitez nous aider? Rejoignez-nous sur le site fondationdesmonastères.org. Par décret du 21 août 1974, la Fondation des monastères est reconnue d'utilité publique, ce qui lui permet de recevoir tous les dons et legs en franchise totale de droits de mutation et de faire bénéficier les donateurs d'avantages fiscaux.
Tous les pianos Yamaha, marque la plus jouée au monde, sont chez Nebout et Ham, l'adresse des beaux pianos à Paris. Piano droit, piano à queue ou numérique, piano silent ou hybride, nous proposons dans nos 4 magasins Nebout et Ham le plus grand choix de pianos Yamaha au meilleur prix. Nebout et Ham, votre espace Yamaha Premium à Paris. Ouverture d'un nouveau magasin Nebout et Ham, rue Rondelet dans le 12e, métro Reuilly-Diderot. Nebout et Ham, la passion des beaux pianos.
Greuze, qui ne connaît pas ces portraits d'enfants rêveurs ou effrayés, surpris ou émerveillés, que l'on trouve dans tous nos livres et nos musées. Peintre des Lumières, ami de Rousseau, Greuze redéfinit la place de l'enfant et de la famille dans la société pré-révolutionnaire. 50 œuvres de ce grand peintre provenant de 25 collections privées, européennes et américaines, sont pour la première fois exposées à Paris, à la galerie Éric Coatalem, 136 Faubourg Saint-Honoré, jusqu'au 20 décembre.
Vous êtes bien avec Radio Classique.